l'heure d'aller se coucher.
On n'est pas des cadeaux, l'émission transpédéguine est féministe.
On ne naît pas hétérosexuel. On le devient pas toujours.
Le genre, ça se construit, le corps aussi.
Transpédéguine.
On n'est pas des cadeaux.
Une émission transpédéguine et féministe.
Rêve de princesse, vie de cauchemar.
On n'est pas des cadeaux. Une émission transpédéguine et féministe. Sur Radio Canu.
La plus des radios.
La plus rebelle des radios.
Votre hétérosexisme n'a fait que nourrir notre rage. Votre haine n'a fait qu'embellir nos amours. Aujourd'hui plus que jamais, nous ne voulons ni de votre sexualité bénitée, ni de votre normalité, ni de votre ennui, ni de votre aliénation, ni de votre intégration dans ce système patriarcal, capitaliste, raciste, nourri de la domination des unes sur les autres.
Une émission transpédéguine.
Enfin, surtout transpédéguine.
Bonsoir, bienvenue, vous êtes en direct de Radio Canu.
Dans l'émission On n'est pas des cadeaux, et aujourd'hui l'émission va porter sur le sujet des grosses gouines.
Les infos.
C'est à vous qu'on aime une fille ou un gars. Cela ne vous regarde pas. Il faudra vous faire une raison de la chose. Nous ne portons plus le triangle rose.
Enfin, les informations, quoi. Alors, pour commencer ces informations, en fait, il y a quelques jours, j'ai ouvert une radio commerciale et je suis tombée là-dessus. Alors, on va commencer par une petite rubrique « Monde de merde ».
Au-delà des dimensions classiques où l'homme projette ses pas, il en est une où s'échappent ses pensées les plus folles. C'est une dimension aussi vaste que l'espace, aussi démesurée que le temps. Un reflet changeant entre l'ombre et la lumière. Un champ d'hypothèses entre la science et la superstition. Un terrain glissant entre l'abîme de nos frayeurs et la cime de nos connaissances.
Oh, monde de merde.
Monde de merde. Monde de merde. Monde de merde. Monde de merde.
Oh, Georges.
Si tu sais faire preuve d'autorité en étant à l'écoute, si tu peux dialoguer, mais aussi rester ferme. Si tu peux te faire respecter tout en respectant l'autre, tu peux faire mon métier. Surveillant pénitentiaire, quelle société peut se passer de vous?
Le ministère de la Justice recrute et forme des surveillants pénitentiaires.
Et ben voilà, no comment. Et pour continuer sur cette rubrique monde de merde, je vais vous parler d'une agitprop homophobe et raciste qui a eu samedi dernier à Lyon. Donc c'est un nouveau groupuscule fasciste qui est composé notamment de gens de Lyon dissident et des gens du GUD 69 qui ont saisi l'occasion d'une campagne de pub des magasins Eram. Et donc cette campagne de pub met en scène des familles recomposées. Alors, dans les familles recomposées, il y a des personnes métisses, il y a parmi elles des parents homosexuels, et ils ont saisi en fait donc cette campagne de pub pour faire une mini-action. Donc, comme c'est la mode en ce moment d'être indigné, ils se sont dit indignés par le fait qu'on évoque publiquement qu'un enfant puisse avoir deux mères ou que son père se remarie. Donc, pour continuer dans la réappropriation Et l'inversement de trucs d'extrême gauche, ils ont beuglé. Alors ça, c'est assez drôle. Ils ont beuglé. Hétérophobie, ça suffit. Oi. Ou encore, première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'hétéro. Alors, c'était assez... Je pense c'est assez ridicule, mais bon, ce qu'il faut dire, c'est que c'était une agitprop. Du coup, ça a duré un quart d'heure, le temps de défiler le long des quais de Saône, de se filmer et puis de diffuser cette vidéo sur des sites de partage de vidéos. Et voilà, ils ont aussi profité pour brûler ces affiches de la honte, comme ils les ont nommé. Bref, ils sont pas restés trop longtemps non plus pour, comme le samedi après-midi, c'est un quartier, ils ont pas voulu, ils ont pas quand même osé trop s'afficher. Ensuite, on va parler, on va faire la suite de ce dont tu avais parlé déjà sur la théorie du genre dans les manuels scolaires. Et en fait, c'est le député UMP de la Drôme, Hervé Mariton, qui veut être assuré par le ministère de l'Éducation, Luc Chatel, que les examens de sciences de la vie et de la terre, donc de SVT, de classe de première, ne comporteront pas de questions liées à la théorie du genre. Parce qu'en fait, donc petit rappel, donc après que les associations catholiques au printemps et les députés UMP fin août, 113 sénateurs avaient demandé début septembre le retrait de ce chapitre des manuels scolaires de SVT, et ben lui, il s'acharne puisque ça n'a pas marché en demandant que ça ne se fasse pas partie des examens. Autant dire, finalement, les profs sont pas obligés de l'étudier. Finalement, bon, ben, ça sera plus dans les examens. Finalement, ça peut disparaître. Ils auront bien gagné. Donc, il faut rappeler que Hervé Mariton était l'un des 80 députés UMP signataires, donc, d'une lettre au ministre demandant le retrait de ce chapitre. Donc, entre-temps, le président des députés UMP à l'Assemblée nationale, Christian Jacob, a proposé, lui, une mission d'information parlementaire sur les programmes dans les manuels scolaires. Donc, ce qui veut dire que cette mission d'information parlementaire regarderait ce qui doit ce que comportent les programmes scolaires. Et là, il y a le PS qui s'offusque et qui boycotte ce groupe de travail à l'Assemblée. Donc, ils ont annoncé mardi qu'ils ne participeraient pas à cette utilisation, et ils disent partisane, de l'Assemblée. Et je cite, il n'appartient pas aux parlementaires et plus largement au pouvoir politique d'élaborer le contenu des manuels scolaires. Des instances légitimes existent pour cela. Bon, finalement, toute cette histoire depuis l'été, ça donne l'impression au final de que c'est plus un coup politique. Voilà, puisque déclaration à droite, déclaration à gauche, ça sent les élections proches. Pourquoi je dis ça, en fait, parce que quand on regarde ce paragraphe dans les manuels scolaires, on se rend bien compte que ça révolutionne pas non plus les questions de genre et de construction sociale et de construction de genre. Ce petit chapitre ou même ce petit paragraphe soulève un petit point où on pourrait dire un petit bout de l'iceberg, mais voilà, en fait, c'est surtout beaucoup de discours politiques et je sais pas, moi, ça me... je sais pas ce que t'en penses.
Oui, bah ça va pas, ça pousse pas bien loin.
En tout cas, ce qu'on peut dire, en parlant justement de questions de genre et de construction de social du genre, il est passé à la télé, donc je vais faire une petite parenthèse télévision. Il est passé dimanche soir dernier sur Arte, un documentaire qui s'appelait « Ni fille ni garçon, mon sexe n'est pas mon genre ». Et donc c'est un documentaire sur la construction de masculinité et la documentariste suit 4 personnes trans, FTM et FTX. Et en fait, moi je l'ai regardé ce docu et il est vraiment chouette. Et donc là, je voulais le dire aux personnes là qui écoutent l'émission en direct. En fait, si dans un moteur de recherche vous tapez Arte Replay, vous pouvez le re-regarder jusqu'à dimanche soir parce qu'on peut re-regarder ces documentaires-là pendant 7 jours. Et il vaut vraiment le détour. Et justement, il va 10 milliards fois plus loin que justement ce petit paragraphe des manuels scolaires. Et donc on entend 4 trans justement expliquer leur vision de leur transition, de leur masculinité, de leur féminisme. Et donc on suit des parcours différents, des personnes différentes et c'est, il est assez classe. Donc moi je vous conseille de pendant le week-end de le regarder. Et ben voilà, on a fini pour cette petite rubrique d'information.
Riot! Don't diet! Get up, get out and try it! Riot! Don't diet! Get up, get out and try it! Hey girl! Get your face out of that magazine! You are more than a beauty machine! You've got anger, soul and more! Take it to the streets and let it roar! Riot! Don't diet! Get up, get out and try it! Riot! Don't diet! Get up, get out and try it! Does Cosmo make you sick and pale? You know what you need to do. Molotov cocktail. Liberate the beauty queen from the shackles of the fashion scene. Let's get mean!
Être outé en tant que grosse Gwyn a fait que j'ai pu créer une complicité avec les autres personnes se définissant de cette manière à Toulouse. Il me semble que ça m'aide à mieux m'accepter. Parce qu'on a beau dire, les complexes, c'est dur à faire disparaître. Et ça m'aide à revendiquer aussi, à dire, oui, mon corps prend plus de place que le tien et c'est comme ça. Quand j'étais hétéra, c'était plus difficile de m'accepter en tant que grosse. Les normes de beauté, de minceur étaient plus fortes, plus ancrées, plus douloureuses. Depuis que je suis Gwyn, ou du moins que j'ai découvert que je l'étais, et surtout depuis que je suis dans le milieu transpédéguine, je vis beaucoup mieux le fait d'être grosse. Ça doit être la déconstruction des normes, tout ça. Sérieusement, elle fait du bien cette déconstruction. Les transpédéguines admettent et revendiquent que les corps ne doivent pas être et ne sont pas tous identiques et rejettent l'uniformisation de la beauté. Moi, ça a été ma bouffée d'oxygène. J'ai eu l'impression de commencer une nouvelle vie avec un nouveau corps. Un corps qui prend de la place, mais un corps beau, au même titre que les autres. Alors oui, énorme impact pour moi, le fait d'être grosse Gwyn et pas grosse hétéra. Je ne retrouve pas les mêmes normes dans la société en général que dans les milieux transpédéguines féministes. Mais je pense qu'il reste 2-3 trucs à déconstruire, détruire quand même. Par exemple, j'ai parfois l'impression de sentir un regard qui me dérange quand je mange beaucoup ou quand je me resserre. L'enjeu pour moi serait de modeler une identité grosse Gwyn à part entière qui aurait sa place et sa légitimité chez les transpédéguines, au même titre que l'identité femme, par exemple. Ça créerait des identités à rallonge. Moi qui suis Gwyn, grosse, femme, racialisée et squatteuse, j'en sais quelque chose. Mais ça nous permettrait d'être complices. D'être comprise et de faire quelque chose de plus intéressant qu'un simple aspect corporel de cette caractéristique de grosse. À mon avis, c'est une identité, une lutte qui n'a pas encore vraiment sa place dans les milieux transpédéguines, féministes, squat, libertaires, mais qui est en train de se mettre en place. Je pense que c'est à nous de la créer, parce que les identités ne sont que ce qu'on en fait. Alors, à nous d'y apporter une couleur politique et subversive et de prendre la place que nos corps méritent.
Voilà, c'était un témoignage d'une grosse Gwyn. Alors quand on est une femme ou considérée comme une femme par la société, c'est-à-dire qu'on soit femme cisgenre ou transgenre, Gwyn cisgenre ou transgenre ou garçon trans, l'injonction à être mince, à surveiller son poids, à ne pas manger à sa faim parce qu'on risque de prendre des kilos, nous vise particulièrement. Ne pas correspondre au modèle sveltesse de la société occidentale, c'est se prendre des remarques, des regards, comme autant de piqûres de rappel pour bien nous faire comprendre que notre corps ne nous appartient pas et que tout le monde peut y aller de son jugement, de sa morale, de ses préjugés pour nous dire ce qui devrait être bon pour nous. S'extirper de ces normes, prendre de la force et envoyer bouler les carcans esthétiques n'est pas une mince affaire, justement. C'est énorme de revendiquer sa fierté d'être grosse, de se trouver belle et de se battre pour prendre de la place au milieu des pas grosses. Sur un plan parallèle, être Gwyn implique d'envoyer bouler l'hétéropatriarcat et ses normes aberrantes, de se construire une autre raison de vivre que ce qu'on demande à une femme, en quelques mots, out, le prince charmant et toutes ses conneries. Se construire en dehors du système hétérosexiste, en quoi cela joue sur l'identité grosse? Quelle place y a-t-il à cette identité et cette lutte dans les milieux féministes, transpédéguines? D'ailleurs, on entendra souvent dans les interventions TPG, ça veut dire transpédéguines, donc dans les milieux féministes, transpédéguines, libertaires, etc. Quelle stratégie nos amis grosses et Gwyn mettent-elles en place pour faire exister leur identité? C'est ce qu'on va écouter dans le reportage avec l'interview de trois grosses Gwyn cisgenres. Et bien sûr, cette émission est une énorme dédicace aux grosses qui nous écoutent et même plus à toutes les grosses et les gros qui endurent les conséquences des codes esthétiques d'une société occidentale normalisante.
Riot, don't diet, get up and try it.
Ouais, grosse.
Moi, je suis pas grosse, je suis grosse placard.
Pour l'instant, des fois je suis grosse, des fois je suis Gwyn.
Je suis grosse, en effet.
Je vous emmerde, c'est comme ça.
On définit grosse Gwyn, grosse boot.
Ouais, grosse.
Une émission sur les grosses Gwyn. Non, on n'est pas des cadeaux. Sur Radio Canyon 102.2.
Alors, est-ce que je me définis grosse Gwyn? Eh ben non. Non, je me définis Gwyn, mais ça peut m'arriver de... Tiens, d'ailleurs, ça peut m'arriver de me définir grosse, mais vraiment très exceptionnellement, mais pas grosse Gwyn. Pour moi, dans l'identité grosse Gwyn, il y a un truc que je revendique pas, et du coup qui fait pas partie de ce que je suis. Alors pour autant, c'est quand même important pour moi de rendre visible ce truc... que je suis grosse, en effet. Du coup, c'est un truc qui compte dans ma construction et dans mon identité, mais je me définis pas grosse. Moi, je suis pas grosse, je suis grosse placard. Alors, c'était un peu une façon... j'ai fait ça pendant longtemps, et notamment dans des événements de rencontres de grosses, où évidemment, j'y allais avec plaisir et intérêt. Mais en mettant toujours un espèce d'accent un peu drôle comme ça sur non, moi je suis pas grosse. Alors, même si je me définis pas comme grosse par exemple, ça a quand même changé des choses dans ma vie. Je pense basiquement dans les rapports aux autres, les rapports de séduction, un peu des trucs de sociabilité aussi. Je pense que ce que ça a changé, surtout ce que ça m'a amené le plus, c'est dans comment je me sens bien avec moi-même, comment ça peut être un argument de force pour certaines. Je pense que à travers aussi toutes les luttes de celles qui portent hyper fort cette définition de grosse Gwyn, ça renforce, ouais.
Bah, je me dis que c'est forcément pertinent. J'ai fait des non-mixités Gwyn, j'ai fait des non-mixités grosses, mais de me dire, en quoi ça... Comment je vis d'être grosse depuis que je suis Gwyn, et comment je vis d'être Gwyn en tant que grosse, enfin voilà. Donc je sais toujours pas ce que c'est que d'être une grosse Gwyn, voilà. Pour l'instant, des fois je suis grosse, des fois je suis Gwyn, mais jamais vraiment les deux ensemble.
Je me définis grosse Gwyn, grosse boot. Je me suis même définie à un moment grosse boot poilue. comme quoi on peut construire une certaine fierté d'une identité de genre, comme trans, PD, Gwyn. On peut aussi construire une certaine fierté avec l'identité grosse. Et puis ça marche un peu de la même manière pour moi, c'est-à-dire que comme on parle de réappropriation de stigmates pour les trans, PD, Gwyn ou les gays, les lesbiennes, et ben moi j'ai vécu un peu pareil par rapport à grosse, quoi, que c'est largement utilisé plutôt comme un truc négatif, une insulte, et que c'était une manière de voilà retourner le truc en force plutôt que se prendre toujours comme une attaque, quoi. C'est les outils féministes qui m'ont amené ça, à la fois sur l'identité de genre, à la fois sur le fait d'être grosse. Ouais, je pense aussi à force d'être décalée pour des trucs par rapport à, aux normes de la société de maintenant, et bah, quand on l'a fait une fois pour quelque chose, et bah, après, on a cet apprentissage qui est là et qui nous sert à ce que le processus pour une autre oppression, il se fasse plus vite, j'ai l'impression. Grosse, j'ai l'impression que je l'ai construit depuis l'adolescence, même peut-être avant, par rapport aux remarques des autres, à l'école, tout ça. J'ai vite réagi je vous emmerde, c'est comme ça. Et ça a assez bien marché, en fait. J'ai été assez peu emmerdée au collège, tout ça, par rapport au fait d'être grosse. Mais c'était pas plus réfléchi que ça. Un peu plus tard, j'ai rencontré les féministes. Et à ce moment-là, pour moi, l'urgence, c'était de construire l'identité de Gwyn. Là, à ce moment-là, j'étais à fond sur Ed Gwyn. C'est formidable. Et une fois que ça, j'étais un peu assise sur l'identité de Gwyn et que j'avais pris de la confiance en moi, que je me sentais forte avec ça. Et là, j'ai pu explorer d'autres trucs. C'est là aussi que l'identité Butch elle s'est construite, et l'identité grosse, la fierté d'être grosse, de la forme de mon corps, des trucs comme ça.
Alors être grosse et Gwyn, je pense que ça a pas grand chose à voir avec grosse et Terra, notamment dans le rapport aux autres. Alors peut-être que se définir comme Gwyn, ça pose déjà un truc hyper fort de rupture avec le monde normatif hétéro-patriarcal. Et donc déjà, il y a déjà une première étape qui est franchie, il y a déjà des luttes qui sont posées.
J'ai jamais dit que j'étais hétéra quand j'étais ado, mais c'est ce que je pensais qu'il fallait être. Et quand j'étais, du coup j'ai même du mal à le dire, mais quand j'étais perçue hétéra, en tout cas je vais dire, ça passe mieux. Par rapport aux normes des critères de beauté, j'étais moche parce que j'étais grosse, surtout par rapport à ça, je pense, surtout parce que j'étais grosse. Dans l'hétéro-patriarcat, dans l'hétéro-système, j'ai envie de dire, les normes elles sont quand même vachement plus étriquées. Et le fait de sortir de ce système-là, ça change aussi les normes, les codes. Et même si on n'est pas dans un milieu soit LGBT ou TPG des plus ouverts de la planète, c'est toujours plus ouvert. Il y a toujours plus de possibles que dans le système hétérosexiste, quoi. Et du coup, il y a plus de manières d'être belle, plus de manières de faire de la séduction, plus de manières de mettre des savoir-faire en avant.
Là, on a fait un week-end, enfin une rencontre de 3 jours à Grenoble, comme ça, qui s'appelait l'énorme week-end autour des normes de poids et de la grosseur, un truc comme ça. Et on avait un petit peu prévu au début de faire des ateliers. Et en fait, on s'est retrouvés. Et en fait, la parole, elle a été vachement fluide, quoi. Et paf, 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 on a tout déroulé dans le désordre. Et je crois qu'on avait juste énormément besoin de partager, quoi. Et c'était vraiment super chouette. Ça m'a donné des trucs super forts. Mais je me suis rendu compte que, en fait, il y avait surtout des hétéras. Et que du coup, quand il y a des trucs sur la sexualité qui sont sortis. Et moi, je me suis mis à parler de mes expériences hétéro. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai fait « Mais attends, de quoi tu parles? C'est plus ta sexualité depuis combien d'années? Pourquoi c'est ça qui te revient en tête ?» Et il y avait une copine qui voulait porter ce truc de grosse Gwyn. Et du coup, je me suis dit que c'était d'autant plus nécessaire. Ce qui est évident, c'est que si j'ai parlé de mes expériences hétéro quand on parlait de sexualité, c'est parce que là, je me sentais grosse et moche et tout ce que tu veux, alors que maintenant, plus. Et que hier, on en parlait justement avec l'autre meuf qui était à la disque de grosse Gwyn, que en fait, des fois, on se sentait pas du tout grosse, on se sentait juste extrêmement comme les autres, quoi, tu vois, ou je sais pas quoi. Et du coup, c'est peut-être juste que je me sens suffisamment bien avec les transpédéguines pour pas me sentir grosse du tout. Est-ce que c'est le but? J'en sais rien.
Tous les critères normés de la société, on a conscience que c'est des trucs construits qui sont normés, qu'on nous impose, que c'est un discours rabâché et tout ça. Déjà, on en a conscience. Donc ça change pas mal. Dans nos milieux alternaux, féministes, même transpédéguines, la majorité des gens, ils ont des corps qui ressemblent à des corps normés, quoi. Mais après, il y a d'autres choses qui changent. Il y a la manière de s'habiller, du coup, de la manière de se montrer aux autres dans l'espace public. Il n'y a pas une frontière, il n'y a pas un mur super épais entre les normes de la société et nos milieux. Nous, on fait des allers-retours avec les normaux et tout, et du coup, on est aussi imprégnés, on a grandi là-dedans, on s'est fait éduquer là-dedans. Et je sens bien qu'on est en lutte contre des normes dont on a compris intellectuellement qu'elles nous font du mal, mais qu'elles sont quand même en nous. Et oui, c'est mieux dans nos milieux, mais c'est pas non plus le paradis, quoi.
Alors, grosso modo, moi, je trouve qu'on est, dans les mêmes gammes de normes. En tout cas, c'est, dans la société... Et dans les milieux TPG féministes, on n'a pas aboli les normes dans les milieux TPG féministes. Il y a toujours des normes. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes, mais on n'a quand même pas renversé tout le système avec, par exemple, être grosse. Ça, c'est la norme. Je pense qu'on en est carrément pas là. Mais je trouve que, en tout cas, moi, je fais une différence entre ce que je vis dans ma vie, dans les réseaux TPG, et puis dans le réseau féministe plus étendu. Moi, je vois une différence hyper forte où, par exemple, moi, je me sens globalement mieux et je me ressens globalement moins de pression ou je sais pas quoi dans les milieux transpédéguines que dans l'extension féministe. Peut-être c'est dû au fait que, d'un point de vue identitaire, du coup, je partage... des trucs hyper forts avec les TPG, tant au niveau de nos féminismes qu'au niveau d'identité.
Si on parle des milieux libertaires, anarchistes, tout ça, déjà les luttes féministes sont vues plutôt comme des luttes secondaires, c'est pas la priorité, faut déjà faire la révolution. Et l'idée de la révolution, souvent, il n'y a pas un truc féministe dedans. C'est très minoritaire d'entendre des discours comme ça. Et du coup, la lutte par rapport aux normes de beauté physique à l'intérieur des luttes féministes, c'est aussi relégué, quoi. Enfin... Je pense que dans le milieu anarchiste, ça existe quasiment pas. Ou c'est les féministes qui l'amènent. Mais parmi les féministes, ouais, je trouve qu'il y a plein de gens qui ont conscience de trucs. Mais de là à ce que ça rentre dans la vie quotidienne, c'est pas encore super gagné. Après, quand je parle avec des gens, la plupart des gens du milieu féministe sont à l'écoute.
Disons que quand je le mets sur le tapis ou qu'une autre grosse le met sur le tapis, j'ai l'impression que, ouais, on a l'espace, mais il faut qu'on l'amène.
Alors, je pense effectivement que cette identité, cette lutte grosse, elle est entendue, en effet, dans les milieux transpédéguines, féministes, squats, etc. Je pense que depuis quelque temps, elle a plus de place. Mais je pense aussi que cette place, elle se donne pas, elle se prend. Je pense que c'est à l'initiative de quelques copines là qui se sont bagarrées vraiment fort pour arriver à construire des trucs en non-mixité grosse et en public. Par exemple, l'hiver dernier à Grenoble, ça a eu un impact fort. Voilà, mais je pense qu'il faut continuer de lutter, même dans nos milieux, même dans nos réseaux, pour que la vie des grosses éclate au grand jour. Pour qu'on puisse parler de ça aussi, et puis de tous les systèmes d'oppression qui sous-tendent cette identité-là.
Ça m'interpelle on soit vraiment très peu de grosses. La balance, par exemple, d'effectifs grosses dans le milieu alterno, dans le milieu féministe, TPG et dans la société normale, c'est pareil, quoi. Ce milieu-là, il m'apporte plein de choses et tout. J'ai envie de rester critique, mais j'ai pas envie d'être trop dure, quoi. J'ai envie qu'on réfléchisse ensemble et tout, mais je veux pas que ça serve à nous plomber, quoi. Et bah c'était 3 jours de rencontre à Grenoble là sur la thématique grosse. Et ça fait du bien, c'était chouette. La soirée, il y a eu une soirée festive, voilà, où tout le monde était invité, peu importe sa corpulence. Et ça, c'était agréable aussi parce que. Je sais pas, moi ça m'a donné l'impression que pendant un temps donné, cette thématique était mise en avant, et puis ça fait que on a l'impression d'avoir une place un peu plus établie, ou que même si elle était déjà là avant, c'est une manière de se le dire entre nous que c'est là.
C'était génial parce que du coup, après que, grâce à cet énorme week-end, je suis sortie du placard et tout le monde sait désormais que je suis grosse. Tout d'un coup, il y a eu une super grosse attention à plein de choses. Par exemple, je trouve jamais de fringues dans les fringothèques, les magasins gratuits, tout ça, parce que c'est toujours des fringues que j'appelle des fringues de filles, quoi, du 38. Et ça me saoule, du coup, il faut que j'achète mes vêtements, mais dans les magasins, il n'y a rien qui me va non plus. Enfin, voilà. Et du coup, je râlais là-dessus, et j'avais une copine qui devait débarrasser sa maison et qui faisait un gros vide-grenier. Et elle me dit, tu viens et tout. Et je dis, non, je vais rien trouver. Et du coup, elle a passé la soirée à chercher des fringues grande taille. Et le lendemain, je suis arrivée, genre un carton, des fringues grande taille et tout. Et aussi des trucs sur la bouffe, le fait. Du coup, après ce week-end, j'en ai parlé à des copines pas grosses de Toulouse. Et on en a vachement parlé, elles m'ont demandé si elles pouvaient me poser des questions, puis après elles m'ont posé, on en a parlé, tout ça. Et du coup, ça a décoincé plein de trucs sur la bouffe aussi. Enfin, et du coup, en fait, peut-être c'est des trucs que je me rendais pas compte avant, que je les vivais mal. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce milieu, il fait qu'il y a une sacrée prise en compte, quoi. Quand tu dis là, il y a un truc qui va pas, machin, alors c'est peut-être juste des apparences ou un truc de course à la. À qui est le plus opprimé ou je sais pas quoi, là je me sens carrément prise en compte et carrément comme pour mes trucs de handicap en fait. Ouais, il y a une sacrée attention à ça, quoi. Merci les copines.
Moi, je suis pas grosse, je suis grosse placard.
Pour l'instant, des fois je suis grosse, des fois je suis win.
Je suis grosse, en effet.
Je vous emmerde, c'est comme ça. On définit grosse win, grosse boot.
Ouais, grosse.
Une émission sur les grosses gouines. Non, on n'est pas des cadeaux. Sur Radio Canu, 102.2.
Alors ma stratégie à moi pour visibiliser le fait d'être grosse dans un milieu majoritairement mince, ben c'est de m'invisibiliser pour de faux. Alors du coup, je prends plein d'humour et puis je me revendique comme grosse placard auprès de des gens avec qui je suis affinitairement très proche, et puis pour les autres, non, je dis que je suis pas grosse. Je pense qu'évidemment ça contraste avec ce que tout le monde peut voir. Alors du coup, ça soulève un peu des trucs, un peu des questions, parfois juste des éclats de rire un peu gênés. Mais en tout cas, pour moi, c'est une façon de maintenir ce truc présent aussi dans mon discours. Ok, je suis grosse dans mon corps, puis je suis grosse aussi dans ce que je suis. Et j'ai pas envie d'être dans l'offensive ou dans le frontal ou je sais pas quoi. Pour moi, c'est plus simple de porter ça dans un truc d'humour. Je trouve ça plus intéressant dans un premier temps. C'est aussi peut-être que de pas avoir été confronté directement à des incidents majeurs grossophobes ou je ne sais pas quoi, en tout cas dans mes réseaux, que du coup ça nécessite pas d'être foncièrement tout le temps dans une attitude offensive ou incisive par rapport à ça. Et du coup, moi j'aime toujours bien cette stratégie de questionner un peu sur bah oui, c'est quoi être grosse, moi je suis pas grosse, toi t'es grosse, et voilà. Et puis ça donne lieu aussi à plein d'échanges et plein de discussions, et ça c'est chouette.
Moi aussi, il faut quand même, je pense, préciser que je fais très attention de qui je fréquente, quoi. J'évite quand même. Je fais très peu d'incursions dans le milieu normal, quoi. J'évolue essentiellement dans le milieu féministe et avec des trans pédéguines et très peu de PD, enfin, pour être très précise, quoi. Ce que j'ai dit là, c'est aussi le reflet de ça, quoi. Moi, je pense que je suis quand même sur cette question dans une situation beaucoup plus confortable que plein de grosses, quoi. Moi, mes techniques, c'est plutôt distiller des petits trucs ou noter des... Par exemple, ça sort souvent... Oh, l'autre soir, j'ai croisé un gars, il m'a saoulé dans la rue, ce gros connard. Plein de fois, je laisse passer, et puis des fois, de temps en temps, je dis, ouais, ça se trouve, il était maigre, ou je sais pas. Ou je fais noter d'une manière ou d'une autre que on utilise gros comme pour accentuer une insulte, et tout le monde est d'accord, quoi. Et, ouais, tout le monde est d'accord. Même moi, je le dis aussi des fois. Et je me surprends à dire, je me reprends, même des fois je me reprends pas. Du coup, ouais, j'essaye des petits trucs comme ça, et puis des fois ça amène des discutes. Oui, sinon plutôt sur des trucs de la vie quotidienne, des fois je dis non, ben moi je m'assois pas sur cette chaise, c'est une chaise de maigre, parce que les accoudoirs ils sont serrés et que moi je suis pas confort, quoi. Ou dans une. Pour choisir des vêtements, ou. Je sais pas, voilà, on est dans une zone de gratte, on cherche des fringues, et bah, moi je vais avoir la plupart du temps beaucoup moins de choix que plein de gens, parce que il y a beaucoup de tailles 38, 40, et que bah moi ça me va pas. C'est trop petit. Moi j'ai l'impression là où j'agis le plus, bah, c'est dans des moments comme ça de le faire noter, de le remarquer, quoi.
J'aimerais bien qu'on grossisse nos rangs et qu'on étale nos bourrelets partout en France et ailleurs. You know, people always say women should be thin, they should be on diet, but I don't care, I just enjoy eating. I like my coffee with a lot of cream. I like to eat late at night. I like scrambled eggs after a sweet dream. I like potatoes deep fried. I like some sugar in my lemonade. I like hot chicken wings and steak. I like thick cheesecake but homemade. I like a long-lasting lunch.
lunch break. I don't care. Some guys may say
it's her curves that I defer.
They like the tight pants that I wear. I am remaining. I love to eat. It's in my jeans. I can't control. Look at my curvaceous cousins. Models can't compete. I am a woman, no skinny doll. Give me the food. I say give me the food. Give me no fruit if you love. They say a lot of things, but you know,
I don't care what people say about my weight. So if you want to take me out for a date, make sure there is enough good food on my plate. And maybe I let you get a taste of my cake. Ha!
On vient de s'écouter la chanson de Miss Platnam, Give Me The Food. Mon corps, mon allié, mon amante, mon arme. Mon corps ne ressemble pas à ce que l'on voit dans les magazines. Je ne suis pas mince, je ne suis pas épilé, j'ai les cheveux vraiment pas très longs. Pourtant, j'aime mon corps. Longtemps, je ne l'ai pas aimé, pas regardé, pas touché. Parfois lourdement aiguillé par ma mère. J'ai tenté, ou plutôt, elle a tenté de me faire perdre du poids. À la maison, pas de gâteau, pas de chocolat, ou alors soigneusement répertorié, compté, rationné. Je suis en primaire, j'ai 10 balles d'argent de poche par semaine. En me faisant pote avec la boulangère, les 10 balles suffisent à me fournir en bon bec et gâteau pour la semaine. Ouf. Certains autres enfants me disent que je suis grosse. Ils ont l'air de penser que c'est un problème, ma mère aussi. À la télé, je regarde une émission où ils parlent des mauvaises graisses. Le beurre, la crème, trop de fromage. Pourquoi mauvaise? Moi, j'adore les pâtes avec beaucoup de beurre, beaucoup de fromage râpé et je mange du pain avec. Ça aussi, ça a l'air d'être un problème. Aujourd'hui, quand je me délecte de pâtes dégoulinantes de beurre et de fromage, j'ai toujours une pensée revancharde envers ma mère, les magazines et tous les gardiens des normes relatives au corps des femmes. Avec mon corps, j'ai parfois pensé que rien n'allait. Ma chère mère me disait souvent que j'étais habillée comme l'as de pique. Moi, je trouvais plutôt que je ressemblais, au niveau du look au moins, à plein d'autres jeans de mon âge et de mon milieu. Jeans et sweat large, baskets, casquettes, un manque flagrant de féminité pour certaines, un style jeans décontracté de la banlieue pour d'autres, mais pour toutes, une trop grande part de masculinité, un garçon manqué. Pour moi, mes premiers pas vers la butch attitude. Puis j'ai attentivement regardé un jeu de cartes et franchement, le look de l'as de pique n'a rien de commun avec celui d'une butch. Un jour, j'ai genre 12 ou 13 ans et je vais chez le médecin pour une connerie de vaccin.
Auscultation classique. Je soulève mon t-shirt pour qu'il écoute mon cœur. Et là, il se met à me parler de mes seins et de leur maintien et du coup de l'intérêt du soutif. J'hallucine. Moi qui choisissais toutes mes fringues sur le critère principal du confort, autant dire que les soutifs ne pouvaient pas faire partie de ma garde pantalon. Et ouais, les robes, c'est pas trop mon style. 6 mois plus tard, je retourne chez ce médecin pour une autre connerie. Là, il constate atterré que je ne porte toujours pas de soutien-gorge et il m'annonce froidement que si je n'agis pas rapidement, mes seins vont tomber. Je prends quelques jours pour m'en remettre, j'essaye plusieurs soutifs et déjà je commence à m'habituer à l'idée que mes seins vont tomber. C'est pas vraiment que ça me réjouisse, mais ça me paraît toujours moins chiant que de porter cette espèce de camisole à seins en permanence. Ma mère, toujours bonne conseillère, avait choisi pour moi ceux qui ont des armatures. Un peu plus tard, elle m'a expliqué que le bon plan avec les armatures, c'est que ça remonte les seins, que selon elle, ça les met en valeur et qu'avec un décolleté, je pourrais même être jolie. Moi, jolie. Très intriguée, j'ai essayé seule dans ma chambre, c'était un peu bizarre, mais c'est vrai que je me trouvais un peu jolie quand même. Un jour où je voulais être jolie, comme ils disent, j'ai mis un décolleté avec une camisole à seins à armature et je suis sortie. Les regards m'ont semblé lourds, dérangeants, intrusifs et agressifs. C'était le regard des hommes, bien sûr. Retour immédiat au suite large et à la presque tranquillité. Un autre truc qui allait pas avec mon corps, c'est que j'avais compris vers 5 ou 6 ans, en me caressant le sexe dans le canapé devant la télé, que ça aussi, c'était très mal. Lorsque ma mère m'a dit, le visage est livide, d'arrêter ça tout de suite. Après, j'ai essayé de me cacher sous une couverture pour le faire, mais mon frère, mon père ou ma mère passaient toujours par là pour me rappeler sèchement d'arrêter ça. J'ai continué de me caresser le sexe, mais uniquement la nuit dans mon lit, la lumière éteinte, les yeux fermés en me disant que je faisais sûrement encore une connerie. Vers 15 ans, j'ai eu envie que d'autres touchent mon corps. Des garçons l'ont fait, souvent ça ne provoquait aucune sensation, parfois c'était désagréable et rarement ça m'a donné du plaisir. Globalement, c'était plutôt décevant, et encore une fois, j'ai pensé qu'il y avait un problème avec mon corps. J'entérine alors mon look de garçon manqué de la banlieue. C'est confortable, et ça éloigne les regards et l'intérêt des hommes sur mon corps. Un soir, mon père, à son grand désespoir, je pense, m'a fait réaliser un truc primordial dans ma vie. Au moment où je vais remettre du beurre pour la 3e fois dans mes pattes, ou quelque chose comme ça, et qu'il remarque également que mon caleçon dépasse délicatement de mon jean large, il me lance « Ah bah, c'est pas comme ça que tu vas plaire au garçon !» J'ai rien dit, mais j'étais vexé sur le coup. Après, j'y ai repensé, et je me suis dit que de toute façon, les quelques expériences que j'ai eues avec les garçons ne me donnaient aucune envie de leur plaire. Là-dessus, j'ai été rassuré. Par contre, j'avais envie d'avoir du plaisir avec mon corps et avec d'autres personnes. L'hétéronormalité faisait bien son boulot. Il m'a fallu encore un peu de temps avant de m'autoriser à avoir du désir pour d'autres femmes. Là, nouveau problème. Que mon corps ne plaise pas aux garçons faisait de mon corps mon allié et une arme de défense. Par contre, s'il ne plaisait pas aux femmes non plus, c'est la panique. Mon père avait bien précisé que c'était aux garçons que je ne plairais pas comme ça. Je me raccroche à cette idée. Je me rends vite compte que je ne plais pas à toutes les femmes non plus. J'ai 18 ou 20 ans. Je me donne du plaisir seul avec mon corps, c'est bon. J'aime me toucher, mon corps et mon amante. Envie d'avoir du plaisir avec des femmes, de les toucher. Je ne veux pas qu'elles touchent mes seins. Étonnamment, je les trouve trop gros et moches parce qu'ils tombent. Je cherche à rentrer dans le milieu lesbien, c'est compliqué. J'hésite, je bafouille, je me sens mal à l'aise. Je lis des bouquins de lesbiennes, je fais des recherches sur les théories féministes. Elles aussi pensent que le regard des hommes peut être un problème. Ça me rassure, je croyais être la seule parano. Quand je dis autour de moi que j'aimerais rencontrer des féministes, souvent on rigole. On me dit que ça va, il faut que je me calme, que quand même la place des femmes a bien changé et que j'ai pas trop à me plaindre en tant que blanche vivant en France. Je me décide alors à essayer de rencontrer des groupes féministes sans en parler aux potes du moment. Là, c'est la classe. Plusieurs trucs que je pense en secret depuis un bout de temps, elle le pense aussi. Elle ne trouve pas que les poils sont laids et qu'on doit absolument leur faire une guerre permanente. Elle pense aussi qu'on ne doit pas forcément porter des décolletés pour être jolie. Encore plus attrayant, elle pense qu'on peut être un garçon manqué et être jolie.
Lorsque j'explique que je trouve ça plus sécurisant dans la rue d'être plus grosse que la moyenne et d'avoir des fringues larges, elles ne lèvent pas les yeux au ciel, elles comprennent. Lorsque je parle de masturbation, je vois des regards, des sourires complices, elles pensent que c'est normal. J'ai même pu dire que je suis lesbienne sans que ça déclenche des fous rires ou un blanc d'un quart d'heure dans la discussion. J'ai eu très envie qu'elles deviennent des amies et certaines le sont devenues. On a parlé ensemble des jours, des nuits, des semaines, on a fait des réus, des collages, des soirées, du sexe. J'ai continué de me masturber sans plus jamais me dire que c'était une connerie. Parfois, je ne mets pas des fringues larges, je me regarde dans la glace, c'est pas désagréable. Deux ou trois fois, j'ai mis un décolleté pour aller à des soirées entre femmes, j'ai remarqué que ça plaisait à certaines d'entre elles. J'ai même commencé à trouver sexy mes poils entre le pubis et le nombril. Mon corps devient une arme de séduction envers les femmes, en même temps qu'il est une arme de défense envers les hommes. Mon corps est donc mon allié. Les poils, les bourrelets sont de moins en moins un problème. Je fais du sexe avec des femmes, certaines me disent que mon corps est confortable, joli et même sexy. Je rougis. J'aime de plus en plus mon corps, j'ai de plus en plus de plaisir avec lui. Jusqu'à il y a pas longtemps encore, je trouvais mes seins encombrants, trop gros et plutôt moches. Longtemps j'ai voulu faire en sorte de les réduire. Mes questionnements autour du corps, du plaisir et de la sexualité m'ont amené à m'intéresser aux pratiques SM. Entre autres découvertes, il y a eu les jeux avec les seins. J'ai parfois pensé qu'il y a une connexion directe entre mes tétons et mon clito. Je me suis mise à les trouver beaucoup moins encombrants. Je trouve ça agréable que d'autres les caressent et jouent avec. Maintenant, j'apprécie de jouer seule avec aussi. Mon corps est mon amante. Aujourd'hui, j'ai 28 ans et je suis plutôt bien avec mon corps. Exception faite de ces poils qui poussent sous mon menton et de cette moustache que j'épile régulièrement. Tous les autres poils, je me suis fait pote avec, mais ceux-là, je bloque. Heureusement, maintenant je suis entouré de potes féministes. Je vais continuer de lire et de parler avec elles des jours et des nuits, et j'espère bien qu'un jour je serai pote aussi avec ces poils-là.
On va écouter maintenant une petite chanson des Reines Prochaines et c'est I Hate Diets.
Yeah, it happened one day and it happened in front of a hairdresser shop. She was sitting there alone. She was waiting. Me too. But there we crossed the eyes, and that's what I told her. Hilly Billy liebt Wurstekal, Hilly Billy liebt Käseplatte, Hilly Billy liebt Sahnetorte und Hilly Billy liebt Schweinebacke. Hilly Billy liebt Friedhof Blume, Hilly Billy liebt Sackbahnhöfe, Hilly Billy liebt Gartenzäune. I hate diets.
my brown eyes and a smile ran over her face. I took her by her hands and we walked away.
Alors maintenant, on va écouter un extrait du zine Un problème de taille, qui est un témoignage et des questionnements d'une grosse, et notamment par rapport à son milieu militant. Et là, c'est un extrait sur l'oppression de la grosseur.
L'oppression de la grosseur et la haine, la dérision et la discrimination systématique que la société manifeste en fait envers les personnes grosses. Elle est fondée sur la croyance que les personnes grosses ne sont pas aussi bonnes que les personnes minces et que les personnes grosses restent grosses parce qu'elles sont lâches, manquent de volonté ou sont stupides. C'est la définition de Judith Stein, oppression et libération de la grosseur, quelques notions de base. Les corps se réfèrent à une norme. Cette norme est éminemment culturelle, lieu, époque, classe sociale. Elle est mouvante. Si on correspond à cette norme, on obtient un certain nombre de privilèges sociaux. Valeur, reconnaissance, crédibilité, et dans un monde où tout n'est que regard des autres et concurrence, c'est non négligeable. C'est l'acquisition de ces privilèges qui rapproche le rapport à la norme physique des rapports d'oppression, généralement reconnus ou admissibles. On déroge à la norme à partir du moment où l'on excède ce qu'elle suppose de nuance. Dès lors, on constitue une altérité. On est autre. On est trop ou pas assez. On a trop ou pas assez de quelque chose. Alors, on n'a pas la même valeur sociale, ni les mêmes privilèges que celles et ceux qui y correspondent. Mais la grosseur se démarque de la plupart de ces éléments notables, de ce qui est alors constitutif d'une différence physique. La plupart des altérités ainsi constituées, être trop petit, trop grande, avoir un nez trop grand, être poilu ou non, sont considérées comme des facteurs innés, comme des éléments inhérents à une personne attribués par des facteurs génétiques ou par une bizarrerie de la nature. Pour les grosses, c'est différent. On suppose qu'une apparence est la résultante d'une volonté ou d'un manque de bonne volonté à rester mince. Alors, cette altérité devient un stigmate infamant et un facteur d'amenuisement d'une reconnaissance sociale. On devient une personne qui n'est pas apte à se contrôler. Si, bien entendu, les rapports au corps et la tolérance de la grosseur sont différents entre hommes et femmes, je veux mettre en avant la question de la grosseur en elle-même. Une oppression étant une domination créée par un système, par exemple le patriarcat, le racisme, le capitalisme, duquel les dominants tirent des privilèges. Il faut bien se poser la question de la grosseur, car aussi indissociable que cette thématique soit du patriarcat, elle reste un stigmate qui catégorise un individu comme valant moins qu'une autre, qu'il soit homme ou femme.
Et on arrive un peu au bout de l'émission, on va en profiter pour donner quelques livres et zines à lire sur la thématique de la grosseur.
Alors je vais commencer par un bouquin assez, en tout cas qui m'a bien plu, aux éditions La Maronie, ça s'appelle « Journal d'une grosse qui réfléchit ». C'est Françoise Leclerc qui l'a écrit. Et il vaut vraiment le détour. Il est un petit chapitre facile à lire. Il est vraiment vraiment chouette. Et je vais aussi parler d'un autre livre qui s'appelle Le Harem et l'Occident de Fatma Mersini. Et en fait, tout le bouquin parle pas de la grosseur, mais il part justement ce livre sur la vision occidentale qu'on a du harem. Et donc c'est un livre vraiment vraiment chouette. Et le dernier chapitre, il s'appelle Harem de la taille 38. Et c'est justement, ça parle de l'Occident et du rapport aux normes physiques et du coup aux normes de mince.
Et moi j'ai du coup il y a une brochure sur infokiosque.net qui est disponible qui s'appelle Oppression et libération de la grosseur. C'est une compilation de textes sur la grosseur. On a lu des extraits de Un problème de taille et aussi le texte Mon corps, mon A, mon allié, mon amante, mon arme. Et c'est des textes qui sont disponibles sur des tables de presse féministes essentiellement. Et on se quitte avec une dernière petite musique.
Eh ben, ciao, à dans 2 semaines. Et la semaine prochaine, c'est bien évidemment l'équipe de Lilith Martin et les autres.
Et c'est Miss Platinum Butter.
Come get some butter, get some cream, get some fat.
Some fat.
Get some milk, put some cheese on my bread.
Ooh.
Come get some butter, make it hot, let it melt.
And then
we gonna...
She had a schnauffler.
Da 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 da